L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Alors ce matin, j'avais à cœur de vous amener un message qui s'intitule « Le Consolateur ». Et je réalise, dans le monde dans lequel nous vivons, on n'a pas toujours des jardins remplis de roses à tous les jours de nos vies. Même si on est dans une église et on croit dans la victoire, il y a des temps où on est éprouvé. Amen. C'est une réalité. Et le Seigneur veut nous équiper. Il veut nous équiper avec sa connaissance et il veut également impacter nos vies pour qu'on puisse recevoir la provision qu'on a besoin pour devenir des croyants forts. Pas forts dans nos forces personnelles. Le problème qu'on peut avoir, c'est si on se repose sur nos forces personnelles. Mais si on trouve notre refuge dans le Seigneur, quand on est au bout de nos forces, le Seigneur, c'est lui qui nous porte. Et comme un enfant qu'on peut avoir, on peut voir l'enfant qui commence à marcher. Quand il tombe à terre, le parent est là pour prendre la main de l'enfant et de l'aider à marcher. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut pas simplement prendre notre main, il veut nous prendre dans ses bras et nous aider dans notre marche chrétienne. Il veut nous consoler si on a besoin de consolation. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe, chapitre 61. Et je vais lire ce matin dans la Bible du Semeur. Donc ce matin, si vous êtes découragé, éprouvé, attristé, si vous vous sentez abandonné, mais gloire à Dieu, je crois qu'on va voir plein de versets de la parole de Dieu pour vous emmener un baume de guérison dans ces émotions-là. Et si vous êtes tout à fait dans la joie et vous pétez le feu, gloire à Dieu, vous allez vous préparer pour des jours plus difficiles des fois. Savez-vous, parce que dans la vie, on a des temps d'épreuve. Il faut savoir comment on va réagir dans les moments d'épreuve. Et c'est bon de bâtir un bateau avant la tempête. Savez-vous ça? Souvent, les gens disent, bon, mais moi, j'ai besoin de guérison. Là, je vais commencer à étudier la guérison. Non, c'est quand on est en santé, il faut étudier la guérison. Savez-vous ça? C'est à ce moment-là qu'on veut étudier pour remplir notre cœur de la connaissance de Dieu. Et la bouche parle de l'abondance du cœur et c'est ça qui change nos vies. Et c'est si on est dans des temps de découragement, mais cette parole est pour vous. Puis si vous n'êtes pas découragé, vous pouvez savoir que le Seigneur peut vous préserver dans les jours à venir parce que le Seigneur a un cœur de père pour ses enfants. Alors dans Ésaïe 61, verset 1, dans la Bible du Semeur, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. » Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. Voyez-vous, c'est un petit peu différent de la version Louis II, mais consoler tous ceux qui mènent deuil. Et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre. Voyez-vous, des fois, on peut se retrouver dans des moments difficiles. Et dans l'Ancien Testament, quand les gens vivaient le deuil, ils se mettaient la cendre sur eux. Mais Dieu, il dit ici, il veut nous donner la splendeur au lieu de la cendre pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Voyez-vous, une des choses, on voit déjà dans le premier texte ici, que Dieu nous donne déjà une clé. Si vous éprouvez des temps difficiles, si vous avez besoin de consolation, la chose que je vois ici, Dieu veut nous vêtir ici, leur mettre l'huile sur la tête, l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc des habits de louange, c'est qu'on prend la décision de se vêtir de la louange et de louer le Seigneur malgré les épreuves. Et quand on fait ça, on crée l'atmosphère pour que le Seigneur nous visite et nous touche. Parce que Dieu habite la louange de son peuple. Et si on veut vivre la présence de Dieu, peu importe la situation, si on loue Dieu, bien Dieu se manifeste et sa présence vient sur nous. Et même hier, comme j'étais avec Patrick à l'hôpital, et je voyais sous le choc, il vivait des émotions, c'était tout à fait normal, mais j'ai prié avec lui et j'ai prié la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Et on peut voir tout de suite que la paix de Dieu, quand elle est là, ça touche une personne, puis on voit un changement dans le monde spirituel et dans le naturel. Ça change le naturel quand on prie la paix de Dieu sur quelqu'un. On voit quelqu'un qui vivait quelque chose qui se sent plus léger, si on veut. On ressent déjà le poids qui est enlevé de la personne. Mais ça, c'est merveilleux. C'est la provision qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et ce matin que j'avais à cœur, et tout au long de la semaine, quand je priais, je ressentais dans mon esprit que le Seigneur voulait que je parle du Saint-Esprit, le Consolateur. Souvent, on parle du Saint-Esprit au niveau des réunions d'église. On veut vivre le Saint-Esprit, on veut vivre la gloire de Dieu. Et absolument, c'est vrai, on veut vivre ça. Mais il ne faut pas penser que le Saint-Esprit, c'est une force dans une réunion. C'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, faut étudier un peu, voir qui est le Saint-Esprit pour recevoir la provision de cette personne. Je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 16 et le verset 13. La Bible nous présente le Saint-Esprit comme étant le Consolateur. Jean chapitre 16 et le verset 13, il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Le Consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et à cause du Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'on peut être consolé simplement en étant conduit dans la bonne direction. C'est une consolation, n'est-ce pas? Si vous êtes dans un mauvais chemin, vous êtes dans un chemin de découragement, le Saint-Esprit vous relève et vous emmène vers le bon chemin et vous emmène dans la vérité, vous conduit dans la vérité et les mensonges que l'ennemi voulait implanter dans vos têtes, ils disparaissent. Bien, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que vous retrouvez la joie, la paix à cause de la présence du Consolateur qui est là pour vous. Amen. Dans le psaume 94, verset 19, il est écrit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous que récemment, vous avez eu en dedans de vous, dans vos pensées, des pensées qui s'agitaient. C'est dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et moi, je suis conscient que dans cette assemblée, on est en train de livrer un combat dans le monde spirituel. J'en ai partagé mercredi soir passé à la réunion de prière. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de prendre du territoire dans le monde spirituel, dans l'air aussi, au niveau des médias. Si vous n'êtes pas conscient, c'est une réalité. Quand on prend les médias, souvent ça a été le territoire de l'ennemi. L'ennemi prend les médias pour prêcher son évangile, pour emmener ses perversions. Souvent, les médias, c'est mal utilisé, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et quand le corps de Christ dit, nous reprenons les médias, nous reprenons l'air pour diffuser l'évangile de Jésus-Christ, l'ennemi veut empêcher cette chose-là, il veut avorter les plans de Dieu. Et il va se prendre de mille et une façons pour décourager les troupeaux. Il veut décourager les gens. Il veut envoyer un esprit d'avortement pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Il y en a certains d'entre vous, vous allez dire, « Oui, mais moi, ça n'a pas rapport avec l'Église, qu'est-ce que je vis? » C'est faux, ça. Vous vivez quelque chose dans votre vie personnelle, ça a rapport avec cette Église. Vous allez dire, « Mais comment ça? Ça n'a pas rapport. Moi, c'est quelque chose dans ma vie privée. » Mais vous faites partie du corps de Christ et l'ennemi sait où aller vous chercher pour vous décourager. Alors, il vous parlera pas nécessairement de l'Académie de la foi, qui vous concerne pas peut-être. Il va venir vous chercher à quelque part dans votre vie personnelle pour vous attrister. Et là, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez croire que vous êtes le seul sur la planète, dans l'Église, à vivre des choses difficiles. Je vais vous dire, la semaine passée, j'ai su qu'il y avait plein de personnes dans l'Assemblée qui vivaient des temps difficiles. Est-ce que c'est une coïncidence que tout le monde en même temps vive des temps difficiles? Non. Ça veut dire que l'ennemi déploie ses forces contre nous pour décourager le peuple de Dieu. Il va semer des mensonges dans nos pensées pour nous empêcher de continuer à croire. Il va nous faire voir en noir dans nos pensées. Et je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui ont vécu du découragement dans votre vie personnelle, mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est que le Consolateur est ici ce matin et il veut vous conduire dans la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exposer l'œuvre de Satan et on va exposer ces mensonges que vous avez peut-être cru cette semaine. Et j'ai parlé un à un avec des gens et des gens me disaient, je pensais que j'étais la seule personne à vivre cette chose-là. Au contraire, souvent, qu'est-ce que vous vivez et vous pensez que vous êtes la seule personne à le vivre? Souvent, moi, je le sais parce que les gens m'appellent et je connais, mais c'est généralisé tout d'un coup. Moi, je peux le voir, c'est anormal. C'est comme, non, ça, c'est pas juste une coïncidence, mais c'est l'œuvre de l'ennemi pour nous empêcher. Mais gloire à Dieu, savez-vous que Jésus est jamais défaite. Jésus, il gagne toujours le combat. Et moi, j'ai cette conviction-là. Et même si l'ennemi essaie de 10 000 façons pour venir voler votre foi, même avec le frère Patrick, savez-vous, si vous vous posez des questions, avec Patrick, moi, je peux vous dire, je me réjouis que Patrick est vivant. Amen. Patrick est vivant et je me réjouis que Patrick a dit lui-même sur la civière, ça venait pas de Dieu, cette chose-là. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Savez-vous, on peut se poser 10 000 questions sur les pourquoi. Mais je peux vous dire que les pourquoi souvent sont pas inspirés du Saint-Esprit. Parce que des fois, on veut tout comprendre maintenant. Mais Dieu nous appelle pas à connaître toutes choses maintenant. Il nous dit de croire. On continue à croire malgré les choses qu'on ne comprend pas. Mais je me réjouis que Patrick est vivant et je crois pour sa guérison complète et totale. Amen. Alors, je me décourage pas et je garde toujours les yeux sur Dieu. C'est ça qu'on doit faire. On garde notre focus toujours sur Dieu. Et quand on garde notre focus sur Dieu, les plans de l'ennemi de nous détruire, ils font fausse route. Alors, on sait ici dans les textes qu'on a lus que le Consolateur va nous guider dans la vérité. Alors, on va marcher avec lui dans la vérité. Dans Jean 15, verset 26, je vais vous inviter là. On va regarder un petit peu le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Jean 15, 26, ça dit « Quand sera venu le Consolateur? » Dans le grec, c'est le mot « paraclète ». En anglais, moi j'ai appris ça à l'école biblique, c'était « paraclete ». En français, je ne sais pas comment on pourrait le prononcer, sauf c'est « paraclète ». Paraclète, ça veut dire « à côté de ». Donc, le Saint-Esprit ou le Consolateur, c'est celui qui est à côté de vous. Et en tant que croyant, nous savons que le Saint-Esprit est en dedans de nous également. Donc, le Saint-Esprit est en dedans de nous et il est à côté de nous. Et pourquoi est-ce qu'on doit comprendre ça? Ben, quand quelqu'un est à côté de vous, vous savez que la personne est là pour vous aider dans votre chemin. N'est-ce pas? Si vous vous sentez seul, vous sentez mal, quand quelqu'un vient à côté de vous, ben, vous vous sentez entouré, n'est-ce pas? Vous ressentez une chaleur humaine, vous sentez l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, est celui qui est à côté de vous. Et c'est important de toujours se rappeler que l'Esprit de vérité est à côté de moi, il est en moi. Et dans Jean 14, verset 16 à 17, ici on voit Jésus qui parlait. Il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Si nous comprenons un autre consolateur, nous comprenons en même temps que Jésus est le consolateur. Des fois, on pense au Consolateur comme étant le Saint-Esprit. Et oui, c'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. Mais Jésus aussi est le premier Consolateur. Ici, dans le grec, le mot « un autre », c'est le mot « allos ». Ça veut dire « de la même nature ». Donc, la bonté et l'amour qu'on a vu dans la vie de Jésus, on sait également que l'autre Consolateur va avoir la même nature de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ça dit ça? Ça dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et un des mensonges de l'ennemi dans nos rangs, dans notre Église, souvent, c'est la croyance que Dieu va nous abandonner. À quelque part, je suis pas assez bon, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je suis pas assez sanctifié. 10 000 raisons pourquoi les gens se condamnent soi-même. Pour des fausses raisons. Des fois, on sent une conviction de l'esprit. S'il y a quelque chose d'anormal dans notre vie, s'il y a un vrai péché, c'est bon d'avoir le Saint-Esprit qui vient nous convaincre et dire, OK, ça, c'est dans ta vie, fais le ménage. Ça, on dit gloire à Dieu, on dit oui. Mais quand on a fait le ménage et l'ennemi vient encore nous accuser faussement, bien là, qu'est-ce qui est merveilleux? On a le Saint-Esprit qui est là et qui dit qu'il va demeurer avec nous éternellement. Ça dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Il demeure avec nous. Le Saint-Esprit veut être toujours avec vous dans votre demeure, que ça soit le party dans votre vie, que ce soit des temps difficiles, il demeure. Si vous quittez l'Église ici, et la seule chose que vous vous rappelez, c'est que le Saint-Esprit veut dire « à côté de ». Le Consolateur, c'est « à côté de ». Il est celui, paraclète, celui à côté de vous et en vous. Alors, vous avez Dieu avec vous dans l'épreuve. Vous avez celui qui est le Tout-Puissant. Alors, peu importe l'épreuve, et ça, je l'ai déjà dit, si on prend l'épreuve et on regarde dans 1 million d'années, est-ce que ça va être important, ou est-ce que ça va être si grave, on le sait toujours que non, c'est pas la fin du monde. Mais quand on passe à travers et on le vit, ben souvent, c'est la fin du monde pour nous, n'est-ce pas? C'est notre fin du monde. Mais rappelons-nous qu'on a le Consolateur à côté de nous et il va nous conduire dans toute la vérité. Et ça, ça peut être au niveau pratique aussi. Des fois, on vit des choses difficiles et on s'attend toujours d'avoir une révélation divine pour des grandes choses. Je veux une prophétie. Mais des fois, c'est une chose simple que Dieu va nous donner et dire, fais telle affaire, je veux te libérer, je veux te donner un ressourcement spirituel. Et gardons-nous toujours en tête que le Saint-Esprit est en nous et à côté de nous, et il est là pour nous faire du bien. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Si jamais dans votre semaine, ça va mal, vous êtes découragé, ne pensez pas que vous êtes tout seul dans l'Église à vivre ça. Tout le monde vive la victoire perpétuellement, mais moi, j'ai des problèmes. Des fois, on pense que c'est juste nous autres que ça va mal. Des fois, ça peut aller mal pour tout le monde. Savez-vous ça? En même temps, en plus. Mais gloire à Dieu, on n'est jamais tout seul parce que le Saint-Esprit demeure. Amen. L'autre consolateur, moi j'aime ce que Jésus a dit. Regardez qu'est-ce que l'autre consolateur, le premier consolateur Jésus, dans Jean 14, 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Si vous pensez que le Seigneur vous a délaissé, qu'il vous a abandonné parce que vous viviez des épreuves, ça c'est faux. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » J'ai entendu un témoignage, je crois que c'est hier, je pense que c'est Josée qui racontait ça, qui est en visite. Elle disait qu'une femme, une Américaine, a adopté un enfant de la Russie. Je ne me souviens plus le pays, c'est ça, la Russie. Et puis l'enfant, ça faisait, je pense, 8 ans qu'elle avait adopté l'enfant, c'est ça? Non? Il avait 8 ans. Mais en tout cas, finalement, elle a adopté cet enfant-là et l'enfant était malade, alors elle a retourné en Russie. Pouvez-vous vous imaginer faire une chose pareille? Mais Dieu ne fera pas ça avec nous. Dieu, quand il nous adopte dans sa famille, il nous garde. Amen. Dans Romains 8, 15 à 16, ça dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu n'est pas un Père dénaturé. Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous rejette pas comme ça, mais Dieu, il veut se révéler à nous comme étant ce Père qui nous aime, beau jour, bon temps, mauvais temps. Amen. Dieu nous aime. Et dans Hébreux 13, verset 5, ça dit, « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, si vous avez cru le mensonge cette semaine, on dirait que Dieu m'a laissé tout seul. Dans Hébreux 13, 5, qu'on vient de lire, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est la promesse de votre Père. Dieu ne vous laissera pas tomber. Amen. Amen. Souvent, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il dit, « Mais regarde tes épreuves. Si Dieu est avec toi, mais tu ne vivrais pas cette chose. » Si Dieu est avec toi, si Dieu t'aimait vraiment, si toi, tu étais vraiment un chouchou du bon Dieu, il ne te laisserait pas passer à travers cette épreuve-là. Avez-vous déjà pensé à des choses comme ça? Peut-être. Peut-être que non. Dans Psaume 119, versets 49 à 50, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. » Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse. Mais quelle sorte de promesse qu'il nous donne? Dans Cantique des Cantiques 2, verset 4, c'est la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Dieu nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais tomber, qu'il va toujours nous aimer, qu'il va toujours être là pour nous. Et c'est la promesse de Dieu qu'on peut chérir dans notre cœur. Le Seigneur m'aime, même si je vis des choses difficiles, l'épreuve dans ma vie ne veut pas dire que Dieu me rejette ou que Dieu ne m'aime pas. C'est un mensonge de l'ennemi. On peut vivre des épreuves, et je peux vous raconter, même je pense à ma mère qui a vécu une épreuve dans son corps il y a quelques années. Elle était malade et puis on avait prié pour elle. On voulait une guérison surnaturelle. Elle a passé par le chemin de la médecine. On était déçus parce qu'on voulait un miracle de Dieu. On voulait pas qu'elle passe par les choses naturelles. Mais elle a passé par ça quand même. Et l'ennemi voulait voler notre foi. Et même l'ennemi m'a dit, regarde, t'es obligé d'arrêter de croire dans la guérison divine constamment tout le temps. Parce que regarde, dans la vie de ta mère, vous l'avez même pas vécu. Savez-vous, l'ennemi travaille beaucoup dans nos pensées comme ça. C'est son champ de bataille. C'est nos pensées. Faut devenir mature et discerner. Hey, Satan, ferme ta bouche. C'est vrai. Faut discerner et réaliser, c'est pas de Dieu. C'est-tu le Saint-Esprit qui me ferait penser que je dois quitter ma foi dans la guérison divine? Parce que on n'a pas vécu le miracle qu'on s'attendait. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, mon consolateur, qui va me guider dans des pensées comme ça? Non. C'est Satan, l'accusateur des frères. Alors, quand le découragement est venu sur moi, je suis un être humain, on en vit tous des temps de découragement. Puis je me sentais quasiment comme au piège que l'ennemi me disait, t'es obligé d'arrêter de croire dans la guérison. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit, le consolateur qui est en dedans de moi, il me dit, Joël, t'es pas obligé de tout comprendre. Je suis encore sur le trône. Fais-moi confiance. Bingo. Et j'ai dit, OK, ça, je comprenais rien de plus. J'ai rien compris de plus. Sauf que j'ai dit, je fais confiance à Dieu. Ça, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça que Dieu veut qu'on vive. Même si on comprend pas, on n'est pas obligé de tout comprendre. Mais si on peut garder notre foi en Dieu, malgré l'épreuve, on renie pas notre foi, on dit pas Dieu, t'existes plus. Savez-vous, c'est une autre chose. Cette semaine, quelqu'un me disait, je me suis même demandé, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est toute une fabrication dans ma tête? Est-ce que j'ai imaginé que Dieu existait? Savez-vous, les mensonges que Satan peut jeter parmi nous? Moi, j'ai dit à cette personne-là, moi, en tout cas, l'ennemi, il peut même plus m'attaquer avec ça. C'est ça, c'est un mensonge, il vient plus, il essaie même plus. Il pourrait essayer quand même, mais je peux vous dire, ça marcherait pas. Parce qu'en 2004, quand Dieu a mis son doigt sur moi, puis je me demandais si j'étais pour survivre, ça, c'est une expérience, je peux pas oublier ça. C'est de l'électricité qui a passé à travers mon corps, ça l'a changé ma vie. Il essaie même plus à me faire à croire que peut-être Dieu n'existe pas. Mais pour quelqu'un qui a pas vécu une touche comme ça, ben l'ennemi peut encore venir semer des choses comme ça. Alors, faut discerner puis dire, c'est-tu de Dieu, cette pensée-là? Certainement pas, hein. Ça, c'est l'ennemi qui veut voler. Le diable, il est juste là pour venir voler, égorger, détruire. Si les pensées que vous entretenez vous découragent, ça vient vous écraser, discernez que c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit comment penser. Puis c'est un combat de la foi. C'est un combat de la foi que Dieu nous appelle à mener. C'est de toujours garder nos pensées dans la promesse de Dieu. Si on quitte pas cette place-là, on est correct. Même si on le sent pas. Des fois, on le sentira pas dans notre cœur. Dieu nous appelle pas à faire qu'est-ce qu'on ressent. Il dit, gardez votre foi en moi. Hier soir, quand j'étais à l'hôpital avec Patrick, puis je priais avec lui, j'ai dit, toi, tu choisis la foi dans cette situation. Parce qu'il vivait quand même un choc, là, dans son corps. Puis ça vient dans les émotions. J'ai dit, tu gardes la foi. J'ai dit, toi, tu gardes la foi. Tu choisis la foi. Il dit, oui, je choisis la foi. J'ai dit, tu choisis la foi. Tu choisis pas la crainte. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut venir semer dans des temps comme ça? C'est la crainte. C'est la crainte, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu choisis la paix. Tu choisis la crainte. Puis j'ai prié, puis j'ai vu la paix que j'ai dit, pas choisir la crainte. J'ai choisi la foi au contraire. Amen. Il y a une fausse doctrine qui veut s'installer ici, hein? Non. Amen. Donc, regarde tes épreuves, vois, Dieu t'aime pas. Ça, c'est le mensonge du diable. Une des choses aussi, des fois, faut examiner les épreuves qu'on a, puis voir, est-ce que, des fois, on prend, quand on est chrétien, souvent, on prend toutes les épreuves comme quoi c'est voulu de Dieu, ou que c'est Dieu qui l'a béni dans nos vies, tout ça. Et moi, que je veux faire, j'ai vraiment trouvé ça spécial cette semaine, la façon que le Seigneur m'a conduit. Il m'a fait voir la souffrance dans la vie de Jésus. Et on doit discerner quand c'est la malédiction de Satan qu'on doit refuser et savoir ça, c'est pas l'épreuve de Dieu. Parce qu'il y a d'autres sortes d'épreuves que le Seigneur peut permettre qu'on vive. OK? On va le voir dans la vie de Jésus. Mais prenez pas la malédiction et dites, ben là, Seigneur, permet la malédiction dans ma vie. Dieu ne permet pas la malédiction dans ta vie. Deutéronome 28, c'est pas pour l'enfant de Dieu. OK? Je pense que si on discerne ça, on dit, OK, la malédiction, ça, c'est de Satan. La bénédiction, c'est de Dieu. Si ça fait partie de la malédiction, Dieu ne veut jamais s'en servir pour vous aider à grandir dans ses voies. Il va servir de d'autres choses, la parole, le Saint-Esprit. Mais il peut permettre des fois des choses qu'on passe à travers dans le quotidien pour nous façonner, pour qu'on devienne patient et qu'on demeure fidèle au Seigneur. Vous allez voir ensemble. On va lire deux textes concernant, on va en lire un, deux, trois versets. Jacques chapitre 1, on va regarder ensemble ici que oui, on peut passer à travers des épreuves en tant qu'enfant de Dieu. Dans la Bible du Semeur, je vais lire ça dans Jacques chapitre 1. Ça dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux ou bénis. Ça, c'est une révélation. On passe à travers des épreuves, considérez-vous comme heureux. On n'a pas le goût, là, d'habitude. Quand on passe par les épreuves, on n'a pas le goût de se réjouir et de se considérer heureux, mais Dieu nous dit, considérez-vous comme heureux. Le mot comme, c'est peut-être, le Seigneur nous aide. Faites semblant que vous l'êtes. Comme heureux. Vous l'êtes pas vraiment, tu sais. Considérez-vous comme si vous étiez heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc, Dieu nous appelle à passer à travers des épreuves, des fois, pour qu'on devienne mature. Et quand l'ennemi va venir avec la malédiction, on va savoir réagir et empêcher la malédiction de s'installer dans nos vies. Mais Dieu va permettre des épreuves, mais pas l'épreuve de la malédiction. Le problème numéro un, c'est quand on met toutes les épreuves dans le même panier, dans le même sac au Québec. Et là, comme d'habitude, on dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, puis on met l'épreuve, la malédiction, le cancer, tout ça. On dit c'est l'épreuve de Dieu. Non, la malédiction, gardons ça séparé. La malédiction, c'est de Satan. Mais il y a d'autres épreuves, on va voir ensemble, qui sont permises de Dieu. Une des choses, j'ai pas les versets bibliques là, préparés, mais la persécution pour le nom de Jésus-Christ, c'est permis. Il y a des croyants dans d'autres pays qui vivent le martyre, qui sont persécutés, et c'est permis de Dieu, et à cause de ça, il y en a qui meurent, sont persécutés et se rendent au ciel. Gloire à Dieu, mais ça, c'est une des choses. La persécution. Gloire à Dieu, on vit au Canada, on se fait pas persécuter pour notre vie. On peut venir à l'église, et voyez-vous, il y a personne qui était ici avec une mitraillette pour vous empêcher de rentrer. Amen. On devrait voir ça comme un privilège. On peut venir à l'église célébrer Dieu en toute liberté. Il y a des épreuves comme ça qui sont permises. Mais là, on va voir ensemble l'épreuve dans la vie de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 5, versets 8 à 9. Hébreux, chapitre 5, versets 8 à 9, ça dit, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient l'auteur d'un salut éternel. Voyez-vous ici, là, Jésus a appris, même s'il était le fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À quelque part dans la vie du croyant, il y a des choses qu'on va passer à travers, ça va être difficile. Mais à travers ça, on va sortir plus fort. On va sortir plus mature dans les choses de Dieu. Amen. Et on va pouvoir aider d'autres personnes aussi qui passent à travers des choses difficiles. Regardons ensemble dans la vie de Jésus, là où il a souffert. On sait tous, bon, Jésus est mort à la croix, on connaît tous cette souffrance-là. Mais dans sa vie personnelle, avez-vous réalisé que Jésus a déjà passé par des épreuves personnelles? Qui était attristé aussi dans sa vie. Bien, premièrement, on va établir dans sa famille, Jésus a vécu de la souffrance dans sa famille. Et il a été rejeté de sa propre famille, Jésus. Premièrement, il faut vous convaincre que Jésus avait une famille. Il y a des gens qui ne pensent pas que Jésus avait une famille, mais Jésus avait une famille. Il y avait un père, une mère et des frères et des sœurs. Matthieu, chapitre 13, versets 55 à 56, c'est dit, bon, les gens se moquaient de Jésus. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc, nous voyons que Jésus avait 4 frères et au moins 2 sœurs. Hein, on sait, pour avoir des sœurs au pluriel, il y avait au moins 2 sœurs. Donc, il y avait 4 frères, au moins 2 sœurs. C'est une famille au moins 7 enfants. OK? Là, on ne parle plus de Joseph. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph. Possiblement, il est décédé dans l'enfance de Jésus. Mais on voit que Jésus avait une famille. Savez-vous que dans nos familles, on peut être dans le ministère, on peut aimer Jésus, mais ce n'est pas toujours tout le monde dans nos familles qui vont nous appuyer et qui vont célébrer. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Il y a des gens qui vont même rire de vous. Essayez de vous décourager de marcher avec le Seigneur. Vous dites, mais coudonc, tu t'es-tu fait embarquer dans une religion, dans une secte? Tu t'es-tu fait embarquer? Les gens, des fois, sont animés par l'ennemi, ils ne savent pas, mais ils sont là pour venir vous narguer, vous piquer, vous faire de la peine. Et c'est des fois, c'est le plan de l'ennemi de vous décourager. Mais malgré tout ça, on garde les yeux fixés sur le Seigneur. Mais on voit ici, Jésus avait une famille, et dans sa famille, on voit quelque chose d'assez important. Okay? Quand Jésus prêchait ici-là, dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50, ici, je vais vous faire remarquer une chose. Bon, il s'est dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Imaginez-moi, je suis en train de prêcher, mais ma mère et mes frères sont dehors de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont pas en dedans. Amen. Ils sont pas là pour m'encourager, ils sont pas venus m'entendre prêcher, eux autres sont en dehors de l'église. Ouais, mais Marie, moi j'accuse pas Marie, ça se peut que ça s'est donné comme ça, là, mais vous allez voir, pour les frères de Jésus, c'était pas toujours très le fun. Bon, ça dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. C'est comme si moi j'étais en train de prêcher et ma mère elle vient ici avec mes frères, que j'ai pas là, mais mes frères sont là. Hey, on veut te parler, Joël. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui est mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ça, c'est un petit peu insultant pour sa famille, sa propre famille. Réalisez-vous ça ce matin? Ma mère est là. Hey, pasteur Joël, là, ta mère elle veut te parler avec tes frères. Ma vraie famille, c'est vous autres, ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ça qu'il disait Jésus, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que Marie était rétrograde, tout ça. Là, je ne dis pas plus, mais à ce moment-là, elle n'était pas à l'église. Elle n'était pas en train d'entendre Jésus prêcher. Elle était à l'extérieur. Puis Jésus est en train de dire, ceux qui font la volonté de mon Père, c'est vous autres, là. C'est ceux, mais ma vraie famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et là, dans Jean, chapitre 7, ici on voit Jésus, il se fait moquer. Ses frères se moquent de lui. Ses propres frères, là. Des fois, on se dit, ben, ceux qui vont nous encourager le plus, ça va être notre famille immédiate. Pas toujours. Des fois, c'est le contraire. Même dans la vie de Jésus, vous allez voir aussi. C'est-à-dire, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc Jésus, là, est en Galilée, ça ne tente pas de s'en aller en Judée parce que ceux en Judée, ils veulent le tuer. Vous comprenez ça? Verset 2, « Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui disent, « Pars d'ici et va-t'en en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Ah ouais, va-t'en, là, va-t'en en Judée, là, puis tes disciples, ils vont te suivre, là, ils vont voir qu'est-ce que tu fais, tes grandes œuvres. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Réalisez-vous ça? Même les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Moi, une des choses que j'ai trouvées vraiment spéciales cette semaine en regardant ces versets-là, eux, là, ils disent à leur frère Jésus, « Va-t'en te faire tuer, va-t'en en Judée, les gens te cherchent à te faire tuer là-bas, vas-y donc, vas-y avec tes disciples. » Hey, c'est pas super encourageant, une famille comme ça. Admettons, les gens voulaient me tuer à Montréal, vas-y à Montréal, vas-y donc te faire tuer, tes disciples ils te suivront, tant qu'à y être. C'est ça qu'il leur disait. Verset 7, Jésus dit, « Le monde ne peut vous haïr. » Est-ce que vous vous rappelez les paroles de Jésus? Jésus nous disait que le monde ne peut pas nous aimer. Hein? Quand on aime le Seigneur Jésus, le monde ne peut pas nous aimer. Mais Jésus, il dit à ses frères le contraire, il dit, le monde ne peut vous haïr. C'est impossible que le monde vous haïsse parce que vous êtes du monde. C'est ce qu'il est en train de dire, vous êtes du monde. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Jésus était pour mourir un jour. Il n'avait pas peur de la mort, mais ce n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas encore le temps. Verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Ce n'était pas encore son temps pour lui de mourir. Mais ses frères, ses propres frères, ne croyaient pas en Jésus. J'aimerais ça vous inviter à vous mettre à la place de Jésus. Comment vous sentiriez de vivre ça comme émotion? Mettez-vous à sa place. Jésus a quitté la gloire du ciel. Il est venu sur la terre pour vivre la vie parfaite, pour mourir sur la croix pour nous. Et sa propre famille le rejette. Je ne sais pas si vous avez déjà été rejeté par votre famille, mais la douleur intérieure, ça ne fait pas du bien. Hein? On vit une peine. Puis je suis sûr que le Seigneur Jésus trouvait ça triste. Sa propre famille ne croyait pas en lui. Ses propres frères se moquaient de lui, puis l'envoyaient se faire tuer. C'est ça qu'il leur disait. Mais heureusement, ses frères ont eu une touche de Dieu. Ses frères étaient en retard, mais dans Actes chapitre 1, verset 14, on les retrouve dans la chambre haute. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après la crucifixion, là, les frères, ils ont rentré en dedans d'eux-mêmes, puis ils ont réalisé, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Celui qu'on se moquait, on riait. On n'allait même pas l'entendre prêcher. On riait de lui. Mais là, il était dans la chambre haute, et là, à prier pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ça peut vous donner de l'espoir. Si vous êtes découragé que votre famille ne suit pas le Seigneur avec vous, soyez encouragé. Même Jésus a passé par là. Galates 1, 19, « Je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Non seulement ce qu'ils ont cru, mais Jacques, un des frères de Jésus, est devenu apôtre, un leader dans l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Alors, Jésus a souffert. Il a souffert des choses difficiles. Alors, on doit se rappeler ça et savoir que si le Seigneur passe à travers, nous aussi, on va passer à travers. D'autres mensonges de l'ennemi, c'est que Dieu est contre vous. OK, vous n'êtes pas assez sanctifié, vous n'êtes pas assez digne. Mais dans Romains 8, 31, ça dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rappelez le diable si vous êtes découragé. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, j'aime beaucoup ce texte, ça dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, on peut comprendre, on va tous pécher à un moment donné dans notre vie, OK? Donc, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, et le mot avocat dans le grec, c'est parakletos. C'est pas paraclète, ça vient de la même racine du mot, mais cette fois-ci, c'est traduit dans Jean 14, 16 et 17 comme étant le consolateur. Donc, le mot consolateur et avocat se ressemblent beaucoup. Donc, même si vous avez commis un péché, le consolateur et l'avocat est là pour vous défendre. Donc, Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous. Si on se repent, Dieu est pour vous, il veut vous défendre en cours. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Une autre chose, l'ennemi va vous souffler dans l'oreille, toi, tu ne te rendras jamais au bout. Les autres vont y arriver, mais toi, je te connais, tu n'as pas d'endurance, tu vas arrêter avant de te rendre vraiment au bout. Tu vas démissionner, tu n'as jamais rien fait dans ta vie, tu t'es jamais rendu jusqu'au bout dans une chose, tu n'y arriveras pas. Ça, savez-vous, c'est le diable encore. Le Saint-Esprit ne vous dira jamais ça. Et aussi, le diable va dire, il y a bien trop de tentations, c'est impossible que tu te rendes. Une autre chose dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit, les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Non seulement ce que Dieu dit qu'il est là pour être votre avocat, votre consolateur, celui qui prend soin de vous, mais en même temps, il prépare toujours un chemin pour vous que vous puissiez sortir de l'épreuve, de la tentation. Et d'autres versets, là, dans Jude 1, 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Dans la Bible du Sommeur, « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse sans reproche et exultant de joie. » Ça, c'est le rapport que vous avez besoin de déposer dans votre cœur. Si le diable vous terrasse avec ça, toi, tu ne te rendras jamais au bout. Non, il est capable, et si je viens de le lire, il est capable de me préserver de toute chute. Et c'est ça que je crois. Et dans Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Je me rends jusqu'au bout. Ça, c'est mon héritage. Je vais me rendre jusqu'au bout. Ça peut être difficile pendant la course, pendant un temps. On dirait que je suis comme dans un marathon. C'est difficile. Je me sens fatigué. Mais Dieu le rend jusqu'à la perfection. Je me rends jusqu'au bout. Il y en a d'autres. Je ne vais pas être trop longtemps. Mais ça, c'est un mensonge qui circule beaucoup des fois dans les églises, surtout pour les nouveaux croyants. Ils vont lire un texte dans la parole qui nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Et l'ennemi va se servir d'une mauvaise compréhension du texte pour dire, « Toi, tu as commis le péché impardonnable. C'est impossible pour toi d'être sauvé. Tu vas brûler en enfer pour l'éternité. » Et j'ai connu des gens, j'ai un oncle aussi qui a cru ça pendant des années de temps. Il pensait qu'il était insauvable. Personne, Dieu ne pouvait pas le sauver. Je vais vous lire le texte. Dans Marc 3, 28 à 30, ça dit, « Je vous le dis, c'est Jésus qui parlait, je vous le dis en vérité, tous les péchés sont pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. » Un nouveau chrétien lit ça sans avoir une explication, ça fait peur. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Le blasphème contre le Saint-Esprit, faut enlever ça de nos pensées si on a peur de l'avoir commis. Le contexte nous révèle ici, voyez-vous, il est en parlant de Jésus, il est possédé d'un esprit impur. Si vous croyez que les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre étaient animées par Satan lui-même, vous ne pouvez pas être sauvé en croyant que Jésus était animé d'un démon. Pas une grande révélation, là. Mais c'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de croire que Jésus était animé par Satan. Si vous croyez ça, c'est impossible d'être sauvé. C'est impossible. Parce que vous fermez la porte à celui qui peut vous sauver. Mais là, si vous êtes inquiet, ouais, mais d'un coup, si j'ai commis ça, d'un coup, si j'ai déjà cru ça dans le passé, savez-vous, le fait d'avoir le désir de vous tourner vers Dieu, c'est la preuve que vous n'avez pas commis le péché contre le Saint-Esprit? Dans Jean 16, verset 8 à 10, ça dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Si le Saint-Esprit vous convainc d'un péché à vous repentir, c'est la preuve qu'il travaille encore dans vos cœurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Amen. Et dans le psaume 51, verset 11, qu'est-ce qu'on voit ici, la prière de David? Si on a commis un péché, Dieu, il veut certainement nous pardonner. Ça dit, « Détourne ton regard de mes péchés. « Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alors, on a la prière de David ici. Il priait, il voulait être purifié. Si on a cette même prière-là, toutes les choses que je vous ai racontées, que je vous ai partagées aujourd'hui, vous pouvez les croire et bannir les paroles de l'ennemi qui vient vous souffler dans vos têtes pour vous décourager. Ne pensez jamais à cause que vous passez dans des épreuves et à cause de ça que vous êtes rejeté de Dieu, que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime, peu importe qu'est-ce que vous passez à travers. Et le plus grand défi, c'est de garder la foi toujours, de toujours garder notre foi et de se reposer dans la foi. Ça c'est le défi du croyant. Ça c'est le défi de se reposer dans notre foi dans le Seigneur. Dans Hébreux 4, c'est mes derniers versets, je sais j'en ai eu beaucoup aujourd'hui, mais je croyais vraiment qu'il fallait donner une fondation solide dans la parole, comme ça votre foi n'est pas fondée sur ce que moi je dis, mais sur la parole de Dieu. Hébreux 4, versets 9 à 11, ça dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos pour vous en Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Quand on force du nez, là, on devrait forcer pour une raison. D'entrer dans le repos. D'entrer dans son repos. Verset 11 dans la Bible du Sommeur. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Forçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ça, c'est l'exhortation aujourd'hui pour vous. Si, dans votre vie, vous avez de la misère à connecter avec Dieu, si l'ennemi, on dirait, c'est facile pour lui de vous décourager, de vous faire regarder vers le bas, bien, relevez la tête. Continuez à vous efforcer à rentrer dans ce repos. Et juste, c'est reposant, se reposer, me semble. Hein? Ah, c'est vrai. On dit, Seigneur, moi, je garde ma foi en toi. Je comprends rien, Seigneur. Je comprends pas pourquoi je passe à travers ces choses-là, mais ma foi reste en toi. Je suis pas obligé de défendre mon Dieu. Hein, des gens, des fois, vont dire, mais pourquoi c'est, pourquoi ça? Je suis pas l'avocat. C'est lui, l'avocat. Il est mon consolateur. Moi, je comprends pas rien. Je comprends pas nécessairement tout. Mais savez-vous, quand on engage un avocat, souvent les avocats sont beaucoup plus intelligents puis connaissent toutes les raisons puis ils peuvent donner les arguments tout ça. Mais savez-vous, Dieu ne nous a pas appelés à être des avocats, à moins que c'est votre profession de vie là. Mais spirituellement, Dieu vous appelle pas à devenir son avocat. Il est l'avocat. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe dans nos vies puis toutes les raisons, les pourquoi puis les ci puis les ça. Des fois, on le sait pas. Mais Seigneur, je te fais confiance. Ma foi est en toi. Je me repose en toi et je vais rester couché dans la foi toute ma vie. Et en plus, ça donne que ce lit-là, il est vertical puis il nous fait marcher. On se repose dans le repos spirituellement dans notre cœur avec le Seigneur. Ça veut pas dire que tout d'un coup, on abandonne tout puis on fait plus rien pour le Seigneur. C'est pas ça. Mais dans notre foi est reposée en lui puis on peut se reposer que peu importe les temps difficiles. Et le dernier verset, Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Jésus a dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vos âmes, c'est vos pensées, votre volonté, vos émotions. Dieu est préoccupé avec vos pensées, votre volonté personnelle et vos émotions. Ça, c'est merveilleux. Vous trouverez du repos pour vos pensées. Vous pensez trop des fois. Des fois, vous cassez trop la tête. Vous trouverez du repos pour vos pensées, vos émotions. Dieu veut vous donner du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et ça, j'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est comme dans l'ancien temps, bon, on avait un bœuf, il y avait deux animaux qui travaillaient ensemble, qui travaillaient dans un champ, qui travaillaient. Et puis, il y avait des fois un gros bœuf puis un petit bœuf, puis c'est le gros bœuf qui forçait plus, puis il y avait le petit bœuf qui était là, qui était aidé. Mais Dieu nous dit que nous, on est le petit bœuf, et que lui, c'est le gros bœuf. Puis là, c'est lui qui force, puis nous, on a juste à suivre. Mon joug est doux, et mon fardeau léger. Ça veut pas dire, je veux vous donner un fardeau, ça veut dire, ça va être simple. Le fardeau que je te donne, moi, c'est moi qui porte le gros fardeau, tu as juste à me suivre. Puis nous autres, on est le petit bœuf. La petite brebis, c'est un bœuf dans le contexte. Mais on est le petit bœuf, on marche avec lui. Amen. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire en réponse à une prière comme ça, ou un enseignement sur le consolateur? C'est de dire, oui Seigneur, je me laisse consoler par toi. Je sais que tu es dans ma vie, mais là, je veux vraiment être conscient. On va prier ensemble ce matin. Seigneur, je veux vraiment être conscient de ta présence dans ma vie. Seigneur, tu connais les gens dans notre assemblée, tu connais les mensonges, les stratégies de l'ennemi pour les cribler, pour décourager, puis à tous les niveaux possibles. Mais Seigneur, aujourd'hui, on relève la tête, on garde nos yeux sur toi, Seigneur Dieu. Puis Seigneur, je prie que tu nous donnes à tous et chacun la révélation personnelle que le Consolateur, que ton Saint-Esprit est en nous et à côté de nous. Et Seigneur, que tu es là pour nous à chaque jour de notre vie. Je te remercie, Seigneur, parce que ton amour pour nous est éternel. T'arrêtes jamais de nous aimer parce qu'on passe à travers des temps difficiles. Mais au contraire, ton amour est là pour nous garder encouragés. On trouve notre refuge en toi. Merci, Seigneur, parce que tu accueilles tous ceux qui sont fatigués et qui sont chargés d'une charge lourde. Seigneur, on veut répondre à ton appel dans ta parole qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Seigneur, on te remet ces soucis-là. On les livre, Seigneur, entre tes mains et on veut pas les reprendre. Seigneur, on se décharge sur toi. On reçoit, Seigneur Dieu, le vent de ton esprit qui vient nous rafraîchir ce matin. On reçoit le rafraîchissement de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.